À quelques jours de sa visite en Calédonie, Manuel Valls auditionné par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Nous sommes à un moment décisif et historique, mais tout est fragile, a notamment déclaré le ministre des Outre-mer. Une nouveauté pour le CESE qui lance une plateforme citoyenne. Si les vœux déposés par les citoyens recueillent 400 signatures, la proposition sera examinée par le Conseil économique, social et environnemental. Renforcer la cohésion entre les lycéens, les étudiants et les équipes pédagogiques, c'est le but du Mundialito de football auquel ont participé ce matin plus de 1000 élèves du lycée Blaise Pascal. En métropole du Nouveau, dans l'affaire de la disparition du petit Émile, 20 mois après les faits, ses deux grands-parents, un oncle et une tante sont en garde à vue pour homicide involontaire et recel de cadavres. Un crash entre deux Alpha Jets de la patrouille de France en exercice, non loin de Saint-Dizier. Les deux pilotes et un passager se sont éjectés à temps, il n'y a pas de victimes. Et puis dans la page sport du tennis, avec l'élimination de Gaël Monfils au Masters 1000 de Miami, et ainsi que la fin d'un long feuilleton judiciaire dans le football mondial, Sepp Blatter et Michel Platini définitivement relaxés dans l'affaire dite des 2 millions de francs suisses. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Manuel Valls confirme donc son déplacement en Nouvelle-Calédonie du 29 mars au 1er avril. Le ministre des Outre-mer espère à cette occasion entamer de véritables négociations politiques. C'est ce qu'il a dit lors de son audition par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale.
Nous sommes en effet à un moment décisif, historique. Seul le dialogue permettra de reconstruire un projet commun et partagé et d'imposer la paix civile. Je pense que nous avons recréé, mais je suis extrêmement prudent, modeste, nous avons recréé les conditions de ce dialogue à la fin du mois de février lors de mon premier déplacement. Tout est fragile, mais j'y retourne sur place dès ce jeudi. J'espère qu'à partir de samedi, nous pourrons entamer de véritables négociations politiques. Vous m'auditionnerez sur la situation en Nouvelle-Calédonie au début du mois de mai. J'aurai alors davantage, je l'espère, de précisions à vous donner. Et je l'espère, de bonnes nouvelles à vous annoncer, mais je répondrai évidemment à vos questions.
Le député Nicolas Metzdorf assistait à cette audition par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale et il est intervenu en interrogeant le ministre sur l'expression de lien avec la France, une expression qu'il trouve inappropriée.
L'un des principaux thèmes que vous avez imposé comme sujet de discussion, c'est le lien avec la France. Et ça pose une question qui est profonde, c'est-à-dire que les Calédoniens qui ont choisi de rester français se demandent pourquoi on traite aujourd'hui de la question d'un lien avec la France. Puisque quand on est français, on n'a pas de lien avec la France, on est la France. Le sujet qui se pose, monsieur le ministre, aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez un parti pris, est-ce que vous avez une orientation dans ces négociations que vous souhaitez donner à la Nouvelle-Calédonie qui la séparerait de la République française ? Qui serait un petit peu l'opposé de ce qu'ont décidé les Calédoniens par trois fois. Donc je crois qu'on a besoin d'être rassuré sur le sujet ou on a besoin d'entendre votre position. Est-ce que vous essayez de nous emmener quelque part ou est-ce que c'est le lien avec la France ? Pour vous, c'est juste le traitement des compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Et à ce moment-là, le terme est un peu mal choisi.
Manuel Valls n'a pas répondu directement à la question de Nicolas Metzdorf, mais il a développé la notion des liens qui existent entre la France et la Nouvelle-Calédonie.
Moi, j'ai essayé de démontrer de quelle forme le lien avec la France se traduit, si je reprends le même terme. D'abord par la sécurité que nous devons à tous les Calédoniens, avec la présence, pas seulement, mais de 20 escadrons de gendarmerie, des unités d'élite comme le GIGN ou le RAID, les forces de police bien évidemment, sur le Grand Nouméa, le travail de la justice d'une manière générale, et la présence aussi, il faut le rappeler, de nos forces armées. Au fond, ce sont les compétences régaliennes, sécurité, justice et défense. Et celles-ci, elles ont vocation évidemment à perdurer. C'est ce lien d'abord d'affirmation de la présence de la France. Nous avons une ambassadrice aussi là-bas qui rayonne sur le Pacifique et j'ai dénoncé tout à l'heure les ingérences étrangères, notamment de l'Azerbaïdjan. Et nous devons faire là aussi un travail qui permette de faire rayonner la Nouvelle-Calédonie et à travers elle la France. Et puis j'ai annoncé, et nous continuerons à y travailler tout au long de cette semaine, y compris parce que le Congrès de Nouvelle-Calédonie doit voter son budget dans 48 heures, l'État soutient économiquement la Calédonie, l'activité économique est par terre depuis le 13 mai dernier. Et enfin, je m'engage résolument à rebâtir un plan pour la filière nickel.
Et avant cette audition, Manuel Valls avait reçu le député de la première circonscription, un tête-à-tête de 2 heures au cours duquel Nicolas Metzdorf a rappelé les fondamentaux du camp loyaliste avant l'ouverture des négociations. Se rendre compte de la situation économique et sociale en Calédonie et faire passer des messages utiles en métropole, c'est l'un des buts des visites régulières qu'effectuent les responsables nationaux de la CFE-CGC en Calédonie. Le secrétaire général national du syndicat est actuellement sur le territoire pour appuyer le travail de l'UTCFE-CGC. Jean-Philippe Tange était notre invité ce matin à 7h30. Avec lui, nous avons évoqué le poids de la fonction publique et des discussions en cours pour diminuer la dépense publique.
Tout le monde doit faire des efforts. Et pas seulement le secteur public, mais aussi... Et
dans, oui, ce cas, dans le privé, ils disent la même chose. Hein. Nous, on a beaucoup subi, donc tout le monde doit faire des efforts, y compris la fonction publique.
Exactement. Et donc, vous le savez certainement, hein, nous sommes partie prenante des discussions. Il y a des rencontres qui sont faites régulièrement avec les élus du Congrès pour justement voir quels sont les points sur lesquels on peut jouer. On a parlé de gel de l'avancement, on a parlé de temps partiel, on a parlé du gel des postes, de jours de carence. Donc tous ces sujets-là sont évoqués, ils sont pesés. À la date d'aujourd'hui, il y a des choses qui ont été un peu appuyées par le syndicat. La crainte que l'on a, c'est que ces élus nous écoutent, mais à la fin, ils vont garder quoi de ce qu'on leur a proposé? Parce que si je prends, par exemple, le gel de l'avancement, vous le savez que ça peut être gel de l'avancement total, indifféré. Est-ce qu'on tient compte des deux années qui seraient bloquées? Enfin, vous voyez... on a une position, ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fin, c'est bien cette position-là qui sera retenue.
Avec Jean-Philippe Tange, nous avons également évoqué le conclave sur les retraites en métropole auquel participe la CFE-CGC. Elle n'a pas quitté les débats, contrairement à FO et la CGT ou encore à l'UDP. Malgré tout, le travail continue, nous a-t-il dit.
Les gens qui restent sont des gens qui ont compris qu'il y avait peut-être encore des leviers à utiliser et des vrais leviers. Je pense à l'emploi des seniors, je pense à la pénibilité, je pense à l'égalité entre les hommes et les femmes, je pense à ce qui peut être je le disais tout à l'heure, mais les aides de l'État, mais sous condition d'emploi, d'embauche de seniors notamment. Donc il y a tout ce volet-là qui est encore à faire. Nous, tant qu'on pense qu'il peut avoir encore des possibilités, on restera. On se rend compte que, par exemple, la réforme qui a été validée dernièrement ne servira à rien, puisqu'en 2030, on repart en déficit. Je pense que si les propositions sont cohérentes et peuvent apporter quelque chose, elles seront prises en compte, puisque si ça va dans le sens que le gouvernement a défini, donc cette chance-là, il faut se la garder. Après, on ne se fait pas beaucoup d'illusions non plus, dans un contexte politique aujourd'hui très compliqué. Prendre des positions fermes pour qu'on puisse passer à une négociation, ça risque de patiner pas mal.
Jean-Philippe Tange, secrétaire général de la CFE-CGC actuellement sur le territoire. Une interview à retrouver sur notre site internet. Dans l'actualité aujourd'hui, on retiendra aussi ce rendez-vous avec la réunion ce soir, à 17h du conseil municipal de Nouméa. Il sera très largement consacré à l'examen du budget primitif et des budgets annexes 2025 de la commune.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. La relance du dispositif bouclier qualité-prix avec une liste de produits à prix bloqué peut-elle permettre, selon vous, de lutter contre la cherté de la vie? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 56% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut impérativement sauver l'enseignement catholique de Nouvelle-Calédonie. Ils sont 44% à être d'un avis contraire. À ce propos, la province sud tient ses engagements financiers envers l'enseignement privé. C'est ce qu'elle tient à préciser dans un communiqué. Après que la DEC ait fait état des grandes difficultés financières qu'elle rencontre, la province sud rappelle son soutien déterminé à la DEC et elle indique qu'elle est à jour de ses participations. En 2024, elle a versé 630 millions à l'enseignement catholique, soit 258 millions pour le financement de l'intégralité des collèges privés situés en province sud et 362 millions pour financer l'intégralité de la part des communes en province sud. La province précise que pour 2025, avec des recettes fiscales en chute, une réduction de 9% identique à celle de l'enseignement public a été appliquée dans le privé. Mais dès le mois de février, la province sud a versé une subvention de 235 millions pour le financement des collèges privés. Un second versement est prévu au deuxième semestre. La province sud encourage par ailleurs la DEC à s'inscrire pleinement dans la démarche de rationalisation de la carte scolaire. En bref, au chapitre des faits divers à Nouméa, les pompiers sont intervenus rapidement ce matin pour éteindre une voiture en feu dans le secteur de la Vierge du Pacifique, rue de l'Aubarède. Ça s'est passé vers 8h et la police a ouvert une enquête pour déterminer s'il s'agit ou non d'une voiture volée. À Dumbéa, pendant ce temps-là, dans le quartier d'Auteuil, ce sont encore une fois des détritus végétaux qui ont été placés sur la route et incendiés la nuit dernière. Un phénomène qui se répète ces dernières semaines, selon les gendarmes. Les habitants du quartier se chargent la plupart du temps de nettoyer eux-mêmes ces branchages placés sur la chaussée. Il est 11h40, une première pause dans ce journal, on voit ce qui fait le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, notamment l'ouverture de cette plateforme de pétition citoyenne par le CESE.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie, et les particuliers peuvent désormais faire entendre leur voix et soumettre des propositions au CESE. Depuis une dizaine de jours, une plateforme de pétition citoyenne a en effet été lancée sur Internet, Léana Colombo.
Et l'objectif du CESE est clair, il se veut être le représentant de la société civile. Ce projet de plateforme a été officialisé en 2022, mais ne s'est concrétisé que ce mois-ci, malgré le contexte économique compliqué du territoire. Une période d'autant plus importante où il est nécessaire de donner la parole aux citoyens. Et le Conseil économique, social et environnemental se place comme un porte-voix, explique Jean-Louis Dangleberne, le président du CESE.
C'est un des moyens de permettre à la population de s'exprimer, que des travaux puissent être faits et portés au niveau des institutions qui, eux, décident de mettre en œuvre à la limite des délibérations des lois du pays qui correspondraient aux vœux que l'on aura émis à la suite de ces pétitions citoyennes. Donc là, nous, c'est un moyen au niveau institutionnel de faire avancer des choses que les citoyens portent en eux et qui se trouvent importants à leurs yeux. Alors, c'était intéressant, les premières expériences qui ont été faites en métropole, d'ailleurs, ça a été, on aurait pu l'avoir ici comme vœu, ça a été sur les déserts médicaux. On pourrait même avoir une saisine sur la nécessité d'avoir un CESE pour en avoir une, nous, ça ne nous gêne pas. Dans le système anglophone, ça n'existe pas. Et souvent, ils disent, c'est quelque chose de bien. Alors, ils ne l'ont pas, ils disent que c'est bien, nous, on l'a, il y en a des gens qui disent que ça ne sert à rien. Donc, voilà. Mais donc, tout est ouvert.
Pour accéder à la plateforme, les administrés doivent se rendre sur le site internet du CESE ou taper pétition avec un S, .cese.nc, pétition.cese.nc dans la barre de recherche. Que cela soit pour consulter les pétitions ou en soumettre une, il faudra se connecter avec son compte NC Connect. Judith Mussard, secrétaire générale adjointe du CESE, détaille les démarches de la mise en ligne d'une pétition une fois inscrite sur la plateforme.
Une fois que vous êtes à l'intérieur de cette plateforme, vous pétitionnez en remplissant les zones dédiées, votre prénom, votre nom, qui resteront, je le précise, anonymes. Une fois que c'est fait, le CESE, il a un mois pour se prononcer sur la validité, si ça respecte bien les conditions de la charte, ainsi que les domaines de compétences de l'institution. Une fois validée, la pétition devient officielle, elle apparaît sur le fameux site et elle doit obtenir 400 signatures en deux mois. Si les 400 signatures au bout de deux mois ne sont pas obtenues, soit on ne donne pas suite, soit si le sujet est vraiment intéressant, le bureau peut donner un délai supplémentaire. Si les 400 signatures sont obtenues, le bureau donc valide la pétition et les travaux sont entrepris dès que possible en fonction de la charge de l'institution.
Depuis la mise en ligne de la plateforme le 14 mars dernier, 5 pétitions relevant de thèmes économiques ou sociaux ont été déposées. Elles seront analysées dans les prochains jours avant validation. Si les pétitions sont mises en ligne, elles devront donc récolter 400 signatures dans un délai de deux mois pour ensuite être examinées par le CESE.
Au chapitre santé, la SSNC poursuit sa campagne de dépistage du rhumatisme articulaire aigu auprès des enfants et ses équipes se sont rendues ce matin à l'école Edmond Desbrosse de Caméré, Léo Fichou.
La Nouvelle-Calédonie est un territoire à haut risque de cardiopathie rhumatismale. 250 nouveaux cas sont recensés chaque année et plus de 75% concernent des personnes de moins de 20 ans. C'est pourquoi l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle Calédonie organise depuis 2008 déjà des dépistages du rhumatisme articulaire aigu, aussi appelé RAA. C'est chez les enfants de CM1. Un dépistage réalisé ce matin à l'école par le cardiologue Dominique Choquet.
Je suis en train de faire une échographie cardiaque. Et l'échographie, c'est un examen avec des ultrasons qui permet de faire des coupes sans faire mal et regarder les structures du cœur et le fonctionnement. En l'occurrence, là, c'est les valves que je regarde précisément et je regarde si elles sont parfaitement étanches, si elles ne sont pas abîmées. Là, c'est juste du dépistage. Donc, je vais prendre 2-3 minutes par enfant Et si je vois une petite anomalie, eh ben on va le revoir pour passer un peu plus de temps et vérifier qu'il y a vraiment des anomalies.
Un dépistage simple, rapide et gratuit pour détecter cette maladie dite silencieuse mais grave qui peut apparaître 2 à 3 semaines après une infection de la gorge ou de la peau. Ces symptômes sont souvent confondus avec ceux de la grippe, fièvre, fatigue ou encore douleurs articulaires. Le danger du RAA, il affecte les valves du cœur et s'il n'est pas dépisté et traité à temps, il nécessite un long traitement, voire une lourde intervention chirurgicale. Nathalie Sago, responsable du programme RAA à la SSNC.
Il s'agit d'une injection tous les 28 jours d'antibiotiques pendant quand même de très longues années. Et c'est ça qui est compliqué pour les enfants. Et les très longues années, ça peut durer jusqu'à la vingtaine, jusqu'à 20 ans. Ce traitement va consister à éviter que l'enfant ne retombe malade, tout simplement. Ça va le protéger et cet antibiotique ne fait effet que 28 jours. Donc si on interrompt le traitement, on risque de retomber malade et donc on risque de nouveau d'avoir une aggravation des valves du cœur. C'est pour ça que ces traitements doivent être très réguliers. Ils ne doivent pas être interrompus sans avis médical.
Chaque année, suite à l'échographie réalisée dans les écoles, 400 enfants nécessitent un contrôle supplémentaire. Parmi eux, 150 sont diagnostiqués avec une pathologie cardiaque. Mais grâce à ce dépistage précoce, un suivi médical et un traitement adapté peuvent être mis en place avant l'apparition des complications plus graves.
Restons avec les enfants. Avec un parfum de Coupe du Monde de football sur le stade Pentecôte aujourd'hui, le lycée Blaise Pascal organise en effet son Mundialito, Michael Juneski.
Près d'un millier d'élèves sont rassemblés pour participer à des tournois de football tout au long de la matinée. Le tout dans une belle ambiance. Chaque classe défend un pays et a conçu ses maillots avec ses supporters. Les lycéens sont ravis.
Franchement, c'est bien organisé. On s'amuse, on rigole. Franchement, c'est net. Good vibes. On a bien joué, on s'est bien dépensé quand même. On a tous gagné pour moi.
Là, je soutiens l'équipe de la Turquie. Personnellement, je trouve ça bien. Ça change des cours. Ça nous libère, on va dire.
Franchement, c'est bien et tout, on s'amuse.
C'est merveilleux.
Votre équipe, elle a gagné ou...
C'est un sujet sensible, très sensible. Mais c'est l'intention qui compte.
C'est ça, l'important...
C'est de gagner. Ah, de participer.
Je vois que là, il y a des sacrés fans, c'est ça? C'est quoi votre équipe?
USA! C'est trop, trop bien. Pour une première, c'est vraiment... C'est trop bien.
Et vous, à côté, je vois que vous avez les décorations.
Bah, c'est pour faire supporter, pour faire pop-pom girl, pour encourager notre équipe.
Ça se passe bien, en vrai. Je veux dire, il y a tout le monde qui est en compétition et du coup, bah, ça fait du bien, on va dire.
C'est quel pays, vous?
Brésil.
Et moi, l'Iran.
On a juste gagné un match. Mais...
Le Brésil n'a gagné qu'un match?
Oui.
C'est intéressant, c'est assez amusant. Puis après, il n'y a pas que du foot, hein, y a aussi d'autres activités. Et puis...
Bah, ça va, en vrai, c'est bien. Enfin, c'est une bonne journée de cohésion, quoi. Enfin, on s'amuse.
Et une belle ambiance, un événement mis en place pour renforcer avant tout la cohésion entre les lycéens et les étudiants ainsi qu'avec les équipes pédagogiques. Grégory Roy, professeur d'EPS au lycée Blaise Pascal.
C'est tout le lycée plus les BTS, 3 terrains, 3 tournois et une finale contre l'équipe des professeurs du lycée. C'est une journée récréative, sportive et de cohésion pour que tous les élèves s'entendent bien. Ça a été inspiré de la Coupe du Monde 2018. Chaque classe a un pays attribué. Ils se sont débrouillés pour faire des maillots aux couleurs de leur pays, avec leurs prénoms, les numéros. Avec l'aide des professeurs principaux qui ont géré la gestion des équipes, il y a le football, il y a des ateliers, 4 ateliers à côté, de course en sac, ski ficelle, lancer de volant à l'aveugle et le grand jeu populaire du bibiche qui permet de mobiliser toutes les équipes, pas que le foot. Tout le monde s'amuse, c'est festif.
Une centaine de professeurs est donc également impliquée dans cette matinée sur le thème de la Coupe du Monde de football.
11h49, il est temps de marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de venir à l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons enfants!
Allons enfants, un rendez-vous instructif et rigolo à 10h50 et à 15h50.
Et ouais!
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité nationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et c'est la stupeur au Vernet, ce petit village des Alpes de Haute-Provence. En juillet 2023, le petit Émile, en séjour chez ses grands-parents, avait disparu. 20 mois après les faits, 4 personnes ont été placées en garde à vue et sont entendues par les enquêteurs pour homicide volontaire et recel de cadavres. Il s'agit des grands-parents de la petite victime, ainsi qu'un oncle et l'une de ses tantes. Dans le village, c'est la surprise, d'autant que jusqu'à présent, la famille d'Émile a toujours affirmé que le petit garçon avait échappé à la garde de ses grands-parents. Mais les habitants du Vernet restent prudents, à l'image de Magali Lamy, une habitante du Vernet qui a écrit un livre récemment sur cette affaire.
L'hypothèse selon laquelle peut-être l'enquête se dirige vers une piste criminelle, voire familiale, enfin on n'en sait rien encore, mais disons que ça bouleverse un petit peu les certitudes. Moi je ne m'attendais pas du tout à ça.
Les enquêteurs ont également perquisitionné la résidence principale des grands-parents près de Marseille où ils ont saisi notamment un véhicule. Libérer Boualem Sansal, c'était le mot d'ordre d'une manifestation près de l'Assemblée nationale cette nuit pour nous pour soutenir l'écrivain incarcéré depuis son retour en Algérie en novembre dernier. Manifestation qui a réuni toute la classe politique à l'exception notable de représentants de la France insoumise. Caroline Baudry pour Europe 1.
Sur une banderole tendue entre deux arbres, le visage de Boualem Sansal surplombe un parterre de personnalités politiques, certains sans de leur écharpe tricolore, d'Éric Zemmour aux socialistes en passant par certains députés Renaissance. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, prend la parole au micro.
Pour lui dire qu'il nous manque, que nous l'attendons.
La seule faute de Boualem Sansal est d'être libre, dit-il, libre comme un esprit français.
Que vos applaudissements d'écho en écho, de ville en ville, puisse, si j'ose dire, bondir jusqu'à Alger.
Libérer Boualem, c'est ma seule exigence, poursuit sur scène le président du Sénat, Gérard Larcher. Une Marseillaise est entonnée, reprise par de nombreux anonymes comme Éric et Anne, un couple d'avocats.
De savoir qu'un Français donc, est en prison dans un régime qui nous cherche des crosses depuis si longtemps, il me semblait important d'être là.
Je suis là pour l'homme âgé, l'homme malade et l'homme innocent. Et je suis surprise qu'on ne soit pas plus nombreux.
Le temps de Boualem est compté, peut-on lire sur une pancarte en soutien à l'homme de 80 ans.
Et notez que Boualem Sansal sera fixé sur son sort demain après un procès expéditif à Alger la semaine dernière, sans avocat. Il encourt 10 ans de prison. Autre manifestation à Orléans où 1300 personnes ont participé à une marche blanche pour soutenir le rabbin de la synagogue de la ville et sa famille. Samedi dernier, il a été agressé en plein jour et devant son fils par un adolescent de 16 ans. Manifestation qui a rassemblé de nombreux anonymes.
Tout le monde a été un peu sidéré. Ça paraît lointain jusqu'à ce que ça arrive chez soi. Et là, on se dit, ah ben, l'antisémitisme, il est aussi aux portes de ma maison. Il y a aussi cette sidération à voir que c'est aussi chez nous que ça se passe et donc c'est aussi chez nous qu'il faut réagir.
Moi, j'ai énormément d'amis qui sont juifs. Il y en a certains qui envisagent de quitter la France parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. On a l'impression qu'on est revenu dans les années 30. Il n'y a pas de vivre ensemble et ça, c'est ce qui m'attriste le plus.
Cette résurgence de l'antisémitisme agite la classe politique, qualifiée d'islamo-gauchisme qualifiée d'islamo-gauchisme de la France insoumise concentre toutes les critiques. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a eu des mots très durs à l'encontre du parti de Jean-Luc Mélenchon.
L'antisémitisme depuis le 7 octobre, ce sont 2 chiffres et 3 lettres. 1570 actes antisémites en 2024, 62% d'actes antireligieux concentrés sur nos compatriotes juifs quand ils comptent moins de 1% de la population, et 3 lettres, L, F, I. Honte à un parti et à Jean-Luc Mélenchon qui considère que l'antisémitisme est résiduel alors qu'il le ramène à un niveau structurel. Résiduel quand on consacre l'intégralité d'une campagne électorale à déverser sa haine d'Israël et à placer des cibles dans le dos de nos compatriotes juifs. Résiduel l'antisémitisme quand on choisit l'iconographie des années 30 pour ériger des affiches. Résiduel l'antisémitisme quand on chasse les femmes juives de manifestations pour l'égalité et les droits des femmes. Alors bravo à vous, mesdames et messieurs les députés de la France insoumise. Vous avez déjà le déshonneur et vous avez déjà la honte. Demain, vous aurez la défaite et vous serez ramenés au niveau que les Français voudront pour la France insoumise, un niveau qui, lui, doit être résiduel.
Et pendant ce temps, le Rassemblement national brandit de nouvelles menaces de censure à l'encontre du Premier ministre et de son gouvernement. Il l'accuse d'immobilisme. Marine Le Pen en tête, Maïlène Trémollet.
Les avertissements s'enchaînent depuis quelques jours. Le Premier ministre commence, je cite, à énerver Marine Le Pen de son propre aveu. Un avis partagé dans les rangs du parti. On est sur du vide et pire que du vide, on prend les Français pour des imbéciles, s'agace un cadre. Quant à la chef de file des députés RN, elle rappelle que le parti pourrait choisir de renverser le gouvernement sur n'importe laquelle de ses lignes rouges.
Il y a un agacement parce qu'il y a une programmation de l'énergie qui doit être signée par décret, ce qui est une véritable honte parce que je ne vois rien venir sur la proportionnelle. Et puis, je considère qu'en matière d'immigration, on est dans l'inertie totale.
La pression monte à une semaine du jugement de l'affaire des assistants FN au Parlement européen. Une décision de justice qui pourrait condamner Marine Le Pen à une inéligibilité pour 5 ans. Alors, si censurer le gouvernement permettrait au parti une démonstration de force en rappelant à son électorat le poids de son groupe politique à l'Assemblée, Marine Le Pen sait qu'elle joue gros. Si une censure advenait après son jugement et qu'elle était déclarée inéligible, la députée du Pas-de-Calais pourrait alors quitter le Palais Bourbon.
Toujours en métropole, un accident aussi rare que spectaculaire. Deux avions de chasse Alpha Jet de la Patrouille de France se sont percutés en plein vol, non loin de la base aérienne de Saint-Nizier, dans l'est de la métropole. Fort heureusement, les deux pilotes et un passager sont sains et saufs. Ils ont pu s'éjecter à temps avant que leurs avions ne s'écrasent au sol sans faire de victimes. La Patrouille de France effectuait un entraînement, mais que s'est-il passé? Écoutez les explications du lieutenant-colonel Alban de Tellier. C'est un ancien pilote de chasse.
Ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu montes vers le ciel, donc on se voit les uns les autres, et à un moment, on bascule vers le sol. Donc on perd de vue les autres, et on perd de vue tous les repères au sol. S'il y en a un qui a pris 10 degrés de différence, eh ben il se retrouve sur la trajectoire de l'autre. Et ils en ont conscience que quand ils commencent à retrouver, parce qu'ils se recherchent après. Et là, c'est trop tard. Quand il y a une collision, il y en a toujours un qui n'est pas à sa place. Donc il y a parfois des moments chauds dans les répétitions, c'est fait pour ça. Et parfois, ça se passe moins bien. Parfois, un pilote de Formule 1, il va trop vite dans son virage, il sort de la route. L'erreur fait partie du métier et tous ces entraînements sont là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ils sauront ce qui s'est passé et ils feront ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas. La figure restera toujours aussi dangereuse, mais on aura un élément d'attention supplémentaire qui fait que, ah non, là, il faut bien que je regarde à cet endroit-là, mais pas là-bas.
Le lieutenant-colonel Alban de Tellier, ancien pilote de chasse, des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. 11h57, la dernière pause de ce journal avant de voir avec Lionel Sobo toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur? Fermez les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Allez, l'actualité sportive avec du tennis Lionel Sabot et la suite du tournoi Masters 1000 de Miami en Floride. Deux Français jouent les huitièmes de finale de la compétition, enfin presque.
Oui, Gaël Monfils, le vétéran du tennis français, ne verra pas les quarts de finale de ce tournoi. Ce matin, l'ancien numéro 6 mondial qui s'était hissé en quart de finale de ce tournoi, c'était en 2016, a été battu en 3-7 par l'américain Sébastien Corda, tête de série numéro 24. Une défaite 6-4, 2-6, 6-4 après 2h11 de jeu et une interruption très longue à cause de la pluie. Une défaite certes, mais à 38 ans, le Parisien continue de réaliser une très belle saison à l'issue de laquelle mon fils devrait définitivement raccrocher la raquette. L'Américain Corda affrontera en quart de finale le vainqueur de la rencontre qui oppose l'Italien Musetti au Serbe Djokovic. Autre Français en huitième de finale, Arthur Fils, qui aurait dû être sur les cours en ce moment même, mais à cause de la pluie, le match qu'il devait disputer face à l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 2 du tournoi, a été reporté à demain.
On va parler football, mais dans les prétoires. Après quasiment 10 ans de procédure en Suisse, Michel Platini et Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, la Fédération internationale de football, ont de nouveau été acquittés en appel dans une affaire d'escroquerie présumée.
Une affaire qui a brisé les ambitions de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, pressenti en 2015 pour prendre la tête du football mondial. Le Français de 69 ans et le Suisse de 89 ans ont écouté la greffière de la Cour d'appel extraordinaire, Lille, lire une déclaration identique à celle prononcée déjà en 2022. L'accusation d'escroquerie est rejetée, tout comme les chefs subsidiaires de gestion déloyale, d'abus de confiance et de faux dans les titres. Les accusés avaient comparu à plusieurs reprises pour avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs suisses, c'est l'équivalent d'un peu plus de 214 millions de francs pacifiques, en faveur de Michel Platini. Michel Platini qui s'est exprimé à l'issue de l'audience cette nuit pour nous.
Je suis soulagé, j'ai dit que la persécution de la FIFA et de quelques procureurs suisses, quelques procureurs fédéraux, depuis 10 ans, maintenant est totalement terminée. Je suis soulagé, j'ai retrouvé mon honneur, je peux être plus tranquille maintenant. L'histoire elle est très simple, il fallait m'empêcher d'être président de la FIFA. Point final, c'est pas une histoire d'argent, il n'y a rien là-dedans, tout est clair, tout est net, mais je le sais depuis 10 ans. Après, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, comment vous vous êtes posé. Mais aujourd'hui, je suis content parce que c'est une affaire qui est terminée, on va pouvoir passer à autre chose.
La décision rendue par la Cour d'appel extraordinaire est un camouflet, une nouvelle fois cinglant pour le ministère public qui avait requis en mars de l'année dernière 20 mois de prison avec sursis. Selon un communiqué du ministère public, il décidera de la suite de la procédure, c'est-à-dire d'un possible recours en cassation devant le tribunal fédéral suisse.